fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet. Michel Valmet.
Bonjour Françoise.
Chers auditeurs, vous êtes de nouveau à l'écoute de notre émission Fantômes et Merveilles, émission sous-titrée aujourd'hui Vertige et Poésie Songe, ou plus exactement, Michel Valmet.
Vous avez des cultures.
Car nous allons recevoir à nouveau, en prolongement de la semaine dernière, Monsieur Yannick Guin, qui va nous entretenir de cette notion de culture, de la conception et la mise en place d'une action culturelle qu'il peut y avoir encore aujourd'hui, de nos jours. Bonjour Yannick Guin.
Bonjour.
Bonjour Yannick. Et permettez-moi Yannick d'emblée de vous citer, je vais reprendre une phrase de vous. Pour vous, la culture, si je me souviens bien, dans les années 90 et même avant, pouvait trouver une réalité d'expression dans l'assertion « art, science, pensée ». On l'a évoqué la semaine dernière, comme j'ai pu le comprendre. L'idée d'un rapprochement de ce type pouvait à l'époque paraître presque iconoclaste. Comment faire croiser ce que je pourrais appeler la pensée méditante et la pensée calculante, par exemple ? Pourquoi vous aviez choisi ce blason « art, science, pensée » ?
Précisément parce que la culture, c'est ce qui permet de donner une intelligibilité au monde. Et donc, il y a diverses façons de donner une intelligibilité. Il y a la façon par la sensibilité, il y a la façon par la connaissance, par les savoirs. Or, on est précisément dans une période, à mon sens, extrêmement dangereuse. On voit bien qu'il y a une sorte de méfiance dans certains secteurs, d'ailleurs c'est souvent créé et produit par certains organismes, de méfiance vis-à-vis de la science et de la connaissance. D'ailleurs, Eric Orsenna est aussi préoccupé que moi, plus sans doute, il dit « ce qui menace le plus la planète, c'est de rompre la confiance dans le savoir ». Or, on voit bien qu'avec le complotisme, avec diverses manipulations médiatiques, etc., on peut rompre cette confiance dans le savoir. Or, ce qui permet d'éclairer, ce qui permet une intelligibilité, c'est des façons d'aborder les rapports humains par la sensibilité, mais c'est également la connaissance. Or, aujourd'hui, ce qui est très intéressant et très important, je crois qu'on vit de ce point de vue un moment formidable. Il faut le dire parce que souvent, les gens sont un peu le nez dans le guidon et ont peur des temps présents. Mais on vit une période formidable. Aussi bien pour l'humanité, pour les humains, pour ce que nous sommes, simples humains, on voit bien que l'étendue de l'espace-temps est désormais presque illimité. En quelque sorte, on voit, je prends des exemples très concrets, notre rapport à l'univers, regardez comme il est extraordinairement distendu maintenant. L'horizon de l'univers est illimité en quelque sorte, puisque prenons l'exemple du Big Bang. Avant le Big Bang, on pensait qu'il y avait un commencement, et puis ça se développait, puis ça s'accélérait, etc. Et maintenant, on est à penser qu'avant le Big Bang, il y avait une soupe universelle, je dirais, et c'est là que le Big Bang s'est produit. Donc on voit les limites de l'univers s'étendre de façon extraordinaire. Ou bien sur notre pauvre humanité, donc on est commencé au Big Bang il y a 13 milliards d'années, et on sait qu'en ce qui concerne notre étoile, le Soleil, elle va s'éteindre dans 7 milliards d'années. Alors on a un petit peu de temps, mais néanmoins, nous voyons la finitude, si la finitude possible, en quelque sorte. Donc ça donne des espèces de vertiges, mais des vertiges extraordinaires, finalement. Hein. Donc il y a cette question de l'espace, il y a la question du temps. On voit bien que la pensée humaine est chamboulée. Bien des aspects des expressions humaines, je pense aux religions par exemple, sont quelque peu chahutées par justement ces visions que nous donnent les sciences jour après jour. On vit une période merveilleuse. Vous ouvrez votre journal, même votre quotidien chaque jour, et vous découvrez une chose tout à fait extraordinaire chaque jour. Bon, donc on voit bien que l'humanité est confrontée à des découvertes, à des défrichages finalement du temps et de l'espace, et ça change probablement notre rapport à nous-mêmes et le rapport à ceux qui nous entourent. Hein. Donc je crois que là, la science joue un rôle absolument fondamental. Mais ce faisant, il y a, prenons la pandémie par exemple, je lisais ce matin dans mon journal, je lisais sur les causes du virus, du coronavirus, si vous voulez. Alors, vous avez les scientifiques qui tâtonnent, qui cherchent, est-ce que c'est une zoonose née à Wuhan, ou est-ce que c'est l'échappée d'un laboratoire par inadvertance, etc. Mais on voit les complotistes qui disaient, vous voyez bien, c'est sorti, c'est une manigance américaine, sortie d'un laboratoire, etc. Donc, beaucoup de choses se jouent. Et donc, il faut donner, je pense, aux citoyens, non seulement l'approche sensible du monde, mais une approche aussi rationnelle et rationaliste pour ne pas débloquer, quoi, tout simplement.
On va revenir là-dessus. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, Yannick Guin, on va faire une petite pause là. Et c'est nous, l'équipe de Fantômes et Merveilles, qui faisons la proposition de vous faire entendre quelque chose. Un Nantais encore, que vous connaissez sans doute, de nom du moins, Monsieur Paul Lamiraux.
Paul, bien sûr.
Surtout que vous aimez l'opéra.
Oui, l'opéra et la musique. Et je dois vous faire une petite confidence, c'est que quand j'étais enfant, il était apparenté à un curé que je connaissais à Saint-Nazaire, et il nous avait fait écouter du Paul Lamiraux.
Nous allons écouter Brocéliande au matin de Paul Lamiraux, et c'est sous la direction de Stéphane Sanderling. Allez, on écoute. Sur cette idée que vous avez commencé à développer, qui prend des facettes assez différentes dans l'époque actuelle. Parce que c'est vrai qu'on vit en même temps une époque formidable, mais on vit une époque formidable aussi parce que on a des visions. Vous avez parlé, par exemple, du complotisme. Ça existe aussi et ça ne fait qu'enfumer la pensée. Et alors, je pense à des concepts qui sont en train d'émerger maintenant, comme les concepts de cancel culture ou de woke. Ou encore, relativisme culturel. C'est Feyerabend qui avait lancé l'idée, là. Relativisme culturel. Est-ce que tout se vaut? Quelle est la part de la qualité à l'intérieur du travail que vous, en tant que artisan, j'allais dire, de la mise en place d'une politique culturelle, comment vous réfléchissez là-dessus?
Est-ce que le terme de politique culturelle veut encore dire quelque chose?
Aujourd'hui.
L'action militante, parce que vous êtes un militant au départ, et vous êtes également un universitaire. Action, connaissance, et action, la politique culturelle. Vous parlez de politique culturelle. Qu'est-ce que vous en pensez actuellement?
Alors, je pense que la situation est grave. Est grave, car il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui remettent en cause notre approche traditionnelle. Je dirais que il y a en France, et là je vais mêler au fond l'approche républicaine de gauche comme l'approche républicaine de droite, si vous voulez. Quand on est un militant culturel, on est face à deux approches. Il y a l'approche de Jaurès, où au fond le républicain, socialiste, jaurésien, c'est celui qui va chercher à faire en sorte que on est dans la population des citoyens instruits, justement cultivés, éduqués avec les arts, les sciences, la pensée. Bon. Et puis face à l'approche de Jaurès, on a l'approche de Barrès plutôt, c'est-à-dire pour qui la culture est beaucoup plus un patrimoine, c'est beaucoup plus l'expression d'une âme française, mais néanmoins avec... C'est pour ça que je suis indulgent, en quelque sorte, hein, que j'essaie de faire partager l'idée que, malgré tout, même chez ces républicains, si on peut dire, de droite, il y a malgré tout une approche semblable, c'est-à-dire chez Barrès, il y a l'idée quand même d'un partage, justement, de cette âme française constituée par les arts, la musique, la littérature, principalement, etc. Mais il y a toujours l'idée quand même d'un partage, ce qui fait relativement consensus à droite et à gauche sur cette question en France. C'est-à-dire on a une certaine conception de la République à droite et à gauche qui permet de dire voilà ce que l'on cherche. On ne cherche pas exactement de la même manière, avec la même méthode, avec le même objectif, mais néanmoins. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Hein. C'est-à-dire il y a une brisure là-dessus et qui vient très, très largement des études américaines, hein, largement des études américaines, d'ailleurs influencées par un certain nombre de philosophes français, je pense à Derrida, par exemple, ou à Michel Foucault, qui sont des sommités aux États-Unis, chez nous aussi, mais aux États-Unis, et qui ont sans doute pas forcément bien interprété la pensée de Derrida et de Michel Foucault. En tout cas, autour de cette idée de la déconstruction. Hein, de la déconstruction, au fond, d'une critique radicale de tout ce qui est un peu institutionnalisé, établi, etc. Et à partir de là, dans l'idéologie américaine, qui est contraire à l'idéologie républicaine, qui est universaliste, en quelque sorte, et alors qu'eux sont plutôt basés sur les communautés, sur les regroupements, voire sur les religions, hein, alors que nous, c'est le contraire. On ne veut pas fonder notre société égalitaire et universaliste là-dessus. Hein. On veut au contraire outrepasser, on veut donner des perspectives juridiques et politiques qui vont au-delà, qui permettent de dépasser justement les particularismes, les particularités, hein. ce qui fait la France républicaine. Tandis qu'aux États-Unis, au fond, on existe aussi largement à travers ces communautés. Hein. Les community studies, par exemple, eh bien, c'est effectivement ce qui va donner en France aujourd'hui qu'on appelle les facilitations culturelles. Hein. C'est une expression que peut-être vous rencontrez. C'est-à-dire qu'au fond, il faut donner à chacun, soit individuellement, soit dans sa collectivité, dans sa communauté, c'est un terme qu'on entend quand même de plus en plus, hein, dans ce qui fait son identité, alors voilà, son identité, dans sa communauté, dans sa personnalité, leur donner la facilité d'exprimer ce qu'on entend par culture. Et là, on a un mélange extraordinaire dans la pensée anglo-saxonne, hein, je dirais, un mélange extraordinaire entre ce qu'est la culture, les us et coutumes de chacun dans la société, hein, et puis la culture telle que je la définissais. Qui est une tension, un travail sur soi pour aller vers plus de clarté et d'intelligibilité. Donc on ne parle pas exactement de la même chose, et je dis toujours que dans la langue allemande, il y a une différence entre Kultur et Bildung. Et Bildung étant plutôt ce que nous entendons, nous, par culture, et Kultur, c'est plutôt la façon d'être, la façon, l'aspect sociologique, je dirais. Donc aujourd'hui, on mélange un peu tout ça, quoi.
On reviendra là-dessus, je vous le promets, parce que c'est le fond du problème, à mon sens, Yannick Guin. L'émission, malheureusement, se termine, donc je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci. Merci.
Merci. Merci à nos auditeurs de Jet FM d'avoir été présents encore aujourd'hui.
Fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.